fidèles auditeurs auditrices de la radio Maria Burundi, bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu de ce mercredi de la 22e semaine d'état ordinaire, dont voici les références. La première lecture se trouve dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, du 1er au 9e verset. Le psaume sponsorial est le psaume 32. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, du 38e au 44e verset. Nous vous invitons à prêter et attentive à Dieu nous parler à travers ces lectures. Vous êtes avec M. l'abbé Tsima Saïman, de l'archidiocèse de Bujumbura.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger. Et encore maintenant, vous ne le pouvez pas car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels? Et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollo? Qui est Paul? Les serviteurs par qui vous êtes devenus croyants? Et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine.
Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes.
Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine.
Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, pénètre toutes leurs actions.
Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine.
Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint.
Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi.
Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. En quittant la synagogue, Jésus entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. On implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva et les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et Jésus imposa les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « Qui est le Fils de Dieu ?» Mais Jésus les interpellait vivement et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Ils arrivèrent jusqu'à lui et le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il se rendait dans les synagogues de Judée pour y proclamer la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, absorbés par leur division, les Corinthiens n'avaient fait aucun progrès. Ils ressemblaient à de mauvais écoliers se disputant, qui a le maître le plus savant ou la plus belle salle de classe, pour leur déclare qu'il s'occupait du serviteur, plutôt que de son enseignement, c'était de l'enfantillage, c'était être encore charnel. Que de fois nous confondons la vérité avec celui qui la présente. Si par exemple nous écoutons tel serviteur de Dieu avec le parti pris qui n'a rien à nous apporter, nous recevrons exactement ce que nous avons attendu. Puis l'apôtre évoque la responsabilité de celui qui édifie. Dans l'œuvre de Dieu, vit comme un champ de culture ou comme un édifice, chaque ouvrier a une activité propre. Il peut apporter des matériaux, c'est-à-dire divers aspects de la vérité, édifier les âmes en les représentant la justice de Dieu, la rédemption, les gloires variées du Christ, mais sous l'apparence de beaucoup de volumes, il peut aussi construire avec du bois, du foin, du chaume, travail qui ne résistera pas au feu. Oui, que chacun considère comment, non pas combien, il est difficile ce fondement unique et impérissable, Jésus-Christ. Dans l'Évangile, Jésus poursuit son œuvre et l'Esprit nous raconte les faits et les guérisons qui caractérisent son ministère sous le rapport de l'efficacité de la grâce et de son extension à d'autres cas Israël. La puissance était dans celui dont la grâce était rejetée. Il est reconnu par les démons, s'il ne l'est pas d'Israël, d'un seul mot, il les chasse. Toute la puissance de l'ennemi, les tristes effets extérieurs du péché, disparaissent de devant lui. Il guérit les malades, il guérit puis se retire malgré les sollicitations des foules, qui à cause de l'effet de ses œuvres, lui rendaient un honneur qui ne cherchait point. Il s'en va travailler ailleurs, dans le témoignage qui lui avait été confié, car il cherche à accomplir son œuvre et non à être honoré. Il prêche partout au milieu du peuple. Il chasse l'ennemi et la souffrance et annonce la bonté de Dieu aux pauvres. La guérison de la belle-mère de Pierre, que Jésus relève de sa fièvre, voilà un miracle en apparence bien insignifiant. Au point qu'on est enclé à se demander pourquoi Célic en fait mention. Notre étonnement grandit encore lorsque nous découvrons qu'il s'agit du tout premier miracle relaté dans le troisième évangile. Ta logique narrative, il devrait donc avoir une valeur paradigmatique et orienter l'interprétation de tous les miracles qui vont suivre. Bref, les deux versets qui introduisent l'évangile de ce jour méritent toute notre attention. Il n'est pas dit que Jésus sort de la synagogue, mais qu'il la quitte. Elle a terminé son rôle. Elle était le lieu de l'attente et de la venue de celui qui devait accomplir les Écritures. Confère l'évangile de Jésus-Christ selon Célic chapitre 4, 21 verset. L'autorité avec laquelle notre Seigneur y a enseigné doit suffire aux Juifs pieux et ouverts à l'action de l'Esprit pour reconnaître en lui le Messie de leur espérance. En tout cas, le démon, lui, a perçu le caractère unique de ce Jésus de Nazareth, mais son intervention intempestive, destinée à troubler les esprits, se solde par un échec. Il est contraint de sortir de l'homme dont il avait pris possession, confirmant par cette défaite l'autorité et la puissance de Jésus. Notre Seigneur quitte donc l'ancien lieu de culte pour entrer dans la maison de Simon-Pierre, symbole de l'Église. La belle-mère de Simon était alitée, oppressée par une forte fièvre. Il s'agit donc de la mère de l'épouse de l'hôte de Jésus. Les femmes n'avaient guère la préséance dans la société juive de l'époque. A fortiori, la mère de l'épouse du maître de maison devait-elle se contenter des services subalternes? C'est donc au chevet de quelqu'un de retiré, de discret, faisant partie des sans-droits, que sera notre Seigneur. Il est remarquable que le premier membre de l'Église à être nommé dans le troisième évangile est une femme de second rang dans la hiérarchie sociale. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, mépriser dans le monde ce qui n'est rien. Voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Confère la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens, chapitre 1er, du 27e au 28e verset. Jésus non seulement s'approche de la femme, mais se penche sur elle dans un geste de compassion, comme une mère se penche sur le lit de souffrance de son enfant malade. Il interpelle vivement la fièvre. L'expression surprend car notre Seigneur semble prendre autorité sur la fièvre comme sur les démons. S'agit-il d'une actualisation de la victoire de Jésus sur Satan au désert, qu'on fait l'évangile de Jésus-Christ et l'Océlic, chapitre 4, du 1er au 13e verset? Où est-ce l'autorité de sa parole que c'est lui qui veut à nouveau souligner par cette expression? De même que Dieu créa les univers par son verbe, il les recrée par son même verbe, venu dans la chair pour prendre autorité sur l'instigateur du péché et sur toutes les conséquences dans nos vies désormais vouées à la mort. À peine la fièvre est-elle chassée, qu'à l'instant même la femme se leva et servait Jésus. Le verbe grec utilisé par celui qui peut exprimer le redressement de la belle-mère de Simon est le même que celui qui utilisera pour signifier la résurrection de notre Seigneur. Par ce procédé littéraire, l'évangéliste veut rapprocher les deux événements et signifier que les guérisons opérées par Jésus sont autant de participation à la victoire de celui qui a assumé notre condition mortelle pour nous donner part à sa vie mortelle. Le relèvement opéré par l'autorité de la parole de Jésus permet à la femme qui était auparavant clouée sur son lit dans une passivité forcée à reprendre du service. Autrement dit, la participation à la vie du ressuscité est inséparablement participation à la sa condition de serviteur. La finalité du miracle n'est pas simplement le retour à la santé de la malade, mais son insertion dans la vie même du Christ qui se manifeste par l'attitude de service. La libération apportée par Jésus n'atteint pas son but dans la confession de foi, jusqu'ambiguë proclamée par les démons, mais dans le service de la charité qui témoigne de manière irréfutable de la délivrance opérée par notre Seigneur. Saint Jacques dira, qui croit qu'il y a un seul Dieu qui a raison, les démons eux aussi le croient, mais ils tremblent de peur. L'homme devient juste par ses actes et pas seulement par sa foi. En effet, comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte. Confère la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, 19e verset, 24e et 26e verset. La véritable finalité des guérisons, exorcismes et autres miracles accomplis par Jésus tout au long des évangiles apparaît ici en pleine lumière. Notre Seigneur est venu pour nous libérer de l'inertie du péché qui nous paralyse dans nos peurs et notre égoïsme et pour nous rendre participants dans l'esprit de son pouvoir divin demain de servir nos frères au prix de notre propre vie. Le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Confère l'évangile de Jésus-Christ et le Céric, chapitre 22, du 26e au 27e verset. Père Saint, conformément au souhait de ton apôtre Paul, donnez-nous la grâce et la paix, la grâce de nous arracher à notre individualisme, à nos indifférences, à notre lâcheté, à nos paresses coupables, la grâce de nous lever dans la puissance de la résurrection de ton Fils, la grâce de nous mettre généreusement au service de nos frères dans l'amour. Alors ta paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera notre cœur et notre intelligence. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Yeah.